6h03, vendredi 17 septembre. Le week-end est à nos portes. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Alors, c'est une belle journée, chaude, humide. Ça commence ce matin par un ciel qui est assez dégagé. Il y aura donc une alternance de soleil et de nuages. Maximum aujourd'hui 27, l'humidex 34, avec un ciel qui va se couvrir surtout en soirée et durant la nuit. Et avec l'humidité, donc, ben, ça nous amène avec 60 % de probabilité d'averse, peut-être même un orage durant la nuit, minimum de 19. Demain, samedi, on commence la journée avec de la pluie, des averses, un dégagement qui est prévu en après-midi, avec encore là des températures élevées, 25, l'humidex est à 28. Et bonne nouvelle pour dimanche, c'est vraiment là super comme prévision. C'est du temps ensoleillé avec un maximum de 22 degrés. On peut dire que le compte à rebours est commencé dans le réseau de la santé. Le décret qui va imposer la vaccination, donc obligatoire, entre en vigueur le 15 octobre. On est en train de finaliser les détails, sauf que Québec a été très clair. Pas question de reculer. Pas question de repousser d'un mois, deux mois, trois mois l'entrée en vigueur, donc, qui prévoit que tous les employés qui ont des contacts avec les patients, devront être doublement vaccinés. Ce qui veut dire qu'actuellement, les gens qui ne le sont pas ne pourront pas l'être compte tenu du délai entre la première puis la deuxième dose. Puis bon, c'est sûr que ça nous amène plus loin que le 15 octobre. Alors, c'est clair qu'il va manquer des gens dans le réseau à différents postes stratégiques. C'est vrai pour le réseau public et c'est vrai également pour les établissements privés. Le ministre Christian Dubé s'est engagé hier à ce qu'il n'y ait pas de bris de service, de rupture de service. Là, sortez votre crayon, la calculatrice, et essayez d'imaginer comment on va trouver à peu près 10 000 personnes, ça c'est le minimum, là, 10 000 personnes d'ici le 15 octobre pour remplacer ceux et celles qui seront suspendus sans solde. Et il n'y a pas de formule magique. Et ce n'est pas une question juste d'argent. Pour avoir parlé hier en tribune avec des infirmières, avoir été inondé de courriels d'infirmières, l'argent demeure toujours un enjeu. Mais on ne peut pas tout acheter. Et on ne peut pas non plus transformer les conventions collectives, les façons de gérer, en un mois. Hier, je me disais, comment tu fais pour ramener 10 000 personnes, là? Puis elles sont où, ces personnes? Retraitées? Dans le privé? On les sort de la retraite de quelle façon? On les force? Un décret? On récupère les gens qui sont au privé dans les agences? Puis on les amène dans les hôpitaux? J'ai pas de réponse. Le gouvernement va trouver un plan d'action, c'est ce qu'il promet. Mais ça ne peut pas juste être la carotte, puis ça ne peut pas juste être le bâton, parce que ça ne marchera pas. Et là, je regardais les propos des partis d'opposition. Gabriel Nadeau-Dubois qui dit qu'il faut y aller avec prudence, puis qu'on devrait peut-être repousser l'échéance. M. Saint-Pierre Plamondon qui dit que quand un réseau est désorganisé, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas se permettre ça. Peut-être, mais là, tu fais quoi, là? Tu as des employés qui sont en contact avec les patients, donc vulnérables, des gens qui ne veulent pas être vaccinés, dont la charge virale est plus importante que les gens vaccinés. Et est-ce qu'on approche le problème en disant, bien là, on va tester, ou ça va prendre des preuves? La vaccination obligatoire va être décrétée. Alors, comme je vous dis, je n'ai pas la réponse, mais je vais oser ce matin. Je le sais que ce n'est pas populaire, mais je vais le faire pareil. Parce que, rappelons-nous la crise, la première vague, avec tout ce qui est arrivé dans les centres de soins de longue durée. Des voix se faisant entendre disant « ça ne vous tente pas de faire appel à l'armée. Ça ne vous tente pas de dire, là, on est débordé, c'est une crise. Il y a des ressources. Ben, le temps de le demander, le temps de déployer. Et puis finalement, ils sont venus. Et ont pu rétablir stabiliser la situation dans beaucoup de centres. Le docteur Gilbert Boucher, qui est le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, a déclaré cet été. Puis, regardez, hier, on a fermé l'urgence du Suroy pendant quelques heures. Puis il y a d'autres urgences qui sont fermées. Il n'y a pas d'accès dans plusieurs régions. Je pense à l'Abitibi. Alors, je le cite, il y a beaucoup d'urgences qui commencent à parler des ambulanciers. Est-ce qu'on pourrait avoir des gens de la Croix-Rouge, de l'armée, des infirmières spécialisées? On ne peut pas leur demander de s'occuper de l'urgence, mais est-ce qu'il y aurait moyen de les utiliser pour faire des tâches, pour nettoyer le matériel, s'occuper de la rotation des patients? Il y a plusieurs urgences qui regardent ces choses-là, mais on a besoin d'aide parce qu'il n'y a plus personne qui sourit dans nos urgences, malheureusement. Tu sais, veux-tu avoir des hôpitaux militaires? Veux-tu avoir des opérations menées par la Croix-Rouge? Quand je lis ce matin dans la presse, je vous donne un exemple, OK? Puis qui, d'après moi, illustre assez bien ce qui se passe. Le réseau québécois des résidences pour aînés pourrait perdre 8 000 employés. Il y a 40 000 travailleurs, 20 % ne seraient pas vaccinés, donc 8 000. Et là, je cite M. Desjardins, qui est le président. « J'ai plus de 1000 résidences qui n'ont qu'un seul employé la nuit. Il y en a qui me disent que cette personne-là ne veut pas se faire vacciner. » Mais là, tu fais quoi? Tu la remplaces par qui? Alors, l'idée ce matin, c'était comme de faire le tour un peu, parce que le compte à rebours est commencé, puis c'est une pression énorme. Et s'ajoute à cela, parce qu'on parle des salles d'urgence, mais tout le phénomène dont on discute depuis le début de la semaine, du délestage, du report de chirurgie, de patients COVID qui sont de plus en plus jeunes. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres ce matin, à la Cité de la Santé, on s'est retrouvé avec des patients, celui qui est mort, dont je vous parlais hier matin, à 39 ans, qui a été foudroyé, et qui n'avait pas, semble-t-il, d'antécédents médicaux, mais des patients à 30 ans, 40 ans, 50 ans qui sont hospitalisés. Puis on le répète tout le temps, même si je sais que mes amis, les antivax, haïssent bien ça, ce sont des gens qui ne sont pas pleinement vaccinés. Et on sait que le vaccin n'est pas efficace à 100 %, mais tu regardes les tableaux, là, puis tu te rends compte que c'est pas 100 %, mais c'est ce qui est peut-être le meilleur outil de protection avec un certain nombre de mesures. Point final. Puis l'autre chose, les gens disent « Ouais, mais quoi, t'as peur, t'as le vaccin, quoi ton problème? » C'est pas une question de peur. C'est que t'as pas envie d'avoir des symptômes de COVID. T'as pas envie de voir ton état de santé parce que t'es contaminé par quelqu'un. C'est tout. T'as juste pas envie. Il semble que c'est un réflexe assez humain. Toi, t'as pas envie de te faire vacciner? Ben moi, j'ai juste pas envie d'avoir des effets secondaires. Puis quand vous parlez à des gens qui l'ont eu, quand ça traîne, tu te roules pas à terre de douleur. Mais tu sais, perdre le goût, puis les effets sur une plus longue période, espèce de faiblesse, c'est quand même une réalité. Voilà donc pour ce qui est du dossier COVID. Je vous donne un exemple du passeport vaccinal et de son effet. Puis c'est le genre de nouvelles, puis on va pouvoir développer tantôt, mais qui amène, disons, une certaine discussion. Vous savez que pour participer à des activités sportives, là, d'équipe, ben depuis le 15 septembre, ça vous prend ce passeport pour tous les gens qui sont éligibles à la vaccination, c'est-à-dire 12 ans et plus. En fin de semaine, il y a un tournoi, en fait, il y en a même plusieurs, là, les championnats provinciaux de baseball. 108 équipes, normalement, doivent participer à ces championnats. Parce que on n'a pas rempli les critères de vaccination, il y a 40 équipes qui ne pourront pas participer. C'est quand même beaucoup, là. 40 équipes qui ne sont pas admissibles. Alors, j'ai une mère qui m'a écrit, mère de deux joueurs de baseball qui est dans la Ligue du Grand Rosemont à Montréal. Ils ont commencé très jeunes. Là, c'est, comme on dit, c'est une mère impliquée, fan de baseball. Alors, elle a écrit à la ministre, Mme Charest, en disant que si c'était correct le 14, puis c'est juste une question de date, on pourrait-tu faire une exception et permettre à ces jeunes de jouer? Pourquoi la date du 15? C'est sûr que dans toute mesure, ça te prend une date à un moment donné. Puis ça a été décrété le 15. L'autre question que tu peux te poser, si ces jeunes tenaient tant à jouer, c'est pas une surprise, on n'a pas découvert ça le 15, Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas fait vacciner adéquatement? Puis là, je comprends, ce sont des ados. Ils décident à 15-16 ans, mais en même temps, il y a aussi l'influence des parents. Fait que tout ça joue. Alors, c'est une réflexion, mais ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ne pourront pas compléter, si on veut, leur saison de baseball parce qu'ils n'ont pas reçu le vaccin, puis parce que cette date-là est arrivée, disons, en vigueur et s'applique. Je vous rappelle également qu'il y aura grève dans des CPE, 10 jours de grève de voter. Première grève, c'est vendredi prochain. Alors, ça veut dire que les parents devront continuer à essayer de s'organiser. Et les journées de grève sont toujours annoncées à l'avance. Autre chose maintenant en campagne électorale. Il y a deux, trois éléments ce matin. D'abord, le vote, c'est lundi. Les chefs sont dans le dernier droit. Et je comprends là, qu'on parle beaucoup de M. O'Toole, du fait qu'il a soutenu la stratégie de l'Alberta pour combattre la pandémie, puis que ça s'est retourné contre lui, puis qu'il a été obligé de présenter ses excuses parce que ça a explosé en Alberta, puis situation extrêmement difficile en Saskatchewan. Mais je suis pas certain que ça fait partie des grandes réflexions que vous avez avant d'aller voter. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà voté, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà, je dirais, accrochés à un parti, à un chef, à une idée. Puis il reste encore des gens qui hésitent. Puis là, tu dis, est-ce que je vote stratégique? Dépendamment de la situation dans mon comté, il y a une dizaine, une douzaine de comtés, disons, plus chauds au Québec. Alors, si je vote bloc, est-ce que j'atteins mon objectif? Est-ce que je vote avec mes convictions, avec mes tripes? Je vous lance ça ce matin juste comme pour parler un peu de cette réflexion. Deuxièmement, j'ai beaucoup de courriels de gens qui se questionnent sur le vote postal. Il y a eu des ratés, des documents qui n'étaient pas complets. Ça a l'air que c'est assez compliqué de parler à un être humain quand tu vas avoir des précisions. Puis troisièmement, dans les bureaux de scrutin, des gens qui se présentent, me dit-on, ça a l'air que c'est pas trop rigoureux dans la vérification. Tu n'as pas toujours besoin d'une pièce avec photo. Puis on est encore à l'âge de pierre avec des listes imprimées, puis la petite règle, puis le petit crayon. Puis des gens qui pourraient potentiellement, peut-être, disons qu'ils voudraient mal faire, là, puis frauder. Ça a l'air que c'est pas trop compliqué. Puis c'est toujours l'équilibre. Tu veux pas priver un citoyen de droit de vote, mais en même temps, ça prend peut-être un minimum. Donc lundi, ce sera la journée du scrutin. Rapidement, dans les autres nouvelles ce matin, il y a Gilbert Rozon qui dépose une poursuite contre Patricia Tulane. C'est dans la presse, alors on sait qu'il est poursuivi au civil. C'est tout le mouvement qui a suivi le MeToo. Et Patricia Tulane a été pas mal, je pense, celle qui a porté le ballon. Donc c'est une poursuite pour atteinte à sa réputation. On sait qu'elle-même poursuit Gilbert Rozon pour l'avoir agressé. C'est une poursuite de 1,6 million. Dans le cas de Rozon, lui, il dépose une contre-poursuite de 150 000. Vous verrez les détails dans la presse ce matin. Lui, il dit qu'elle s'attaque à sa réputation, tente de le salir, que tout ça est faux, non fondé, et que les seules relations qu'il a eues avec elle étaient tout à fait consentantes et qu'il n'y a pas eu de relation forcée, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, que bref, c'est une histoire inventée. Et on sait qu'elle fait partie du mouvement Les Courageuses. Il y a eu plusieurs poursuites aux civils qui ont été déposées également contre Gilbert Rozon. Aussi, ce matin, c'est dans le Journal de Montréal, les autorités qui tentent de retracer tous les enfants de la DPJ qui ont vécu dans une résidence de Lanaudière, qui était un foyer d'accueil. Un homme, l'homme de la maison, le père, si on veut, était accusé d'agression répétée sur une enfant de moins de 12 ans. Il s'appelle Alain Lavallée, il a 56 ans. Il a été libéré après sa comparution au palais de justice de Joliette. Et il a été arrêté il y a une semaine. Fait face à 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs. Et on pense qu'il aurait fait d'autres victimes parce qu'il s'occupe depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, de jeunes comme ça en difficulté. Alors, pour l'instant, il y a une victime, il y a une série d'accusations, mais disons que c'est probable, ou en tout cas, ça ne serait pas étonnant que d'autres personnes. Alors, ça va peut-être allumer une cloche chez vous, une lumière, là. Alain Lavallée, et ce gars-là a 56 ans. Ça se passe donc dans Lanaudière. Le prix du bois d'œuvre, semble-t-il, est en train de se stabiliser. Vous avez peut-être remarqué, on se souvient de la folie à un moment donné, C'était complètement délirant, les prix. Et Radio-Canada nous dit qu'il y a vraiment une baisse du prix du 2 par 4, assez spectaculaire. Là, il y a un prix de référence, je vous le donne, mais c'est sans doute pas la réalité du Québec, là. Mais on parle au mois de juin de 12,65 $, et là, c'est autour de 4 $, semble-t-il. Donc, tout ça parce qu'il y a comme une demande moins forte, toujours pareil. Et en gros, que les travaux de rénovation ont pas mal été faits. En tout cas, les gens qui voulaient le faire se sont dépêchés à le faire. Et un mot pour vous dire aussi que c'est un peu le coup d'envoi des élections municipales à travers le Québec. Il y a des gens qui m'envoient des photos de Saint-Jean-sur-Richelieu où tu as un mélange des candidats aux élections fédérales, des élections municipales. Alors, M. Coderre va avoir ses pancartes, Mme Plante va avoir ses pancartes. Et on est en route pour le mois de novembre, ce qui veut dire qu'une fois l'élection fédérale passée, on va avoir quand même des enjeux importants au municipal. On a beaucoup parlé de sécurité, mais il y en a d'autres. Alors, c'est officiellement donc le grand départ pour la course à la mairie de Montréal. 6h20. Et dans les autres villes aussi, évidemment. Autoroute des Laurentides, monsieur.